Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir Money Time, saison 5, épisode 5. Et en ce 1er novembre, jour des morts, il y a quelques vivants sur ce plateau. Une petite brochette de chroniqueurs. Alors à commencer par ma droite avec toi Charles, comment ça va bien mon pote?
Salut Matt, salut à tous, très content de, en ce jour férié d'être là, hein, ça fait toujours plaisir. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Violaine qui nous écoute ce soir.
Eh ben on l'embrasse, et à côté de toi c'est Jean-Marc, salut mon pote.
Bonsoir à toi, bonsoir à tous les vivants qui ont survécu à Halloween.
Et pour compléter l'équipe, en guest, c'est Jérémy qui vient nous donner un coup de main. Salut Jérémy.
Salut, salut, et bonsoir à tous et à toutes, et voilà.
Alors, au programme ce soir, une page football pour commencer. Donc, on revient sur les résultats de Ligue 1, des championnats étrangers, et on ira voir les perspectives sur la Ligue des Champions qui démarre demain. Dans la foulée, c'est la page handball avec le H et les Neptunes. On parlera bien sûr de tous les autres clubs nantais dans la rubrique Score en stock, du volley, du hand et du volley, du hockey et du basket. Et puis dans Multizone, on terminera avec tout ce qui s'est passé ce week-end. Allez, on démarre. C'est la page football, c'est le Prune Football Club.
Time. Le Prune Football Club, FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on va commencer la page football en parlant bien sûr de nos Canaries, le FC Nantes qui se déplaçait à la Mosson hier à 15h hein, pour affronter cette équipe de Montpellier qui est là derrière nous au classement. Et c'était un match qui pouvait propulser une des deux équipes dans le top 5. Rien n'en a été pour nos Canaries qui s'inclinent malheureusement 2-0.
Une défaite assez frustrante pour les Nantais, qu'ils ont fait plutôt un bon match. Ils restaient sur 3 victoires d'affilée en championnat. Donc c'est une défaite qui fait un petit peu de mal.
Belle entame pourtant des Canaries, avec tout de suite une équipe offensive qui se projette bien vers l'avant. Et on a vu Pereira Dessa, une belle frappe qui est détournée.
Il en mettra même 3 sur le poteau.
Voilà, ouais. Notamment. Donc. C'est pour ça, Nantes a fait un très bon match en soi. Ils ont eu des occasions, ils ont juste pas su les concrétiser et ils se sont fait un petit peu punir par les Montpelliérains en seconde période.
Et la frustration, c'est la double occasion de notre ami Chirivella qui tente deux frappes enveloppées juste avant que les Montpelliérains marquent. Et les deux sont ratées et bien ratées. Surtout la deuxième, c'est pas un immanquable parce qu'elle est dure à reprendre quand même, mais. Nantes aurait dû largement marquer.
On est privé de Ludo Blas pour ce match.
Et pas mal de manque d'attention et qui est une frustration qui a donné pas mal de fautes. Donc, dont tous leurs défenseurs ont chacun un carton jaune chacun. Qui a créé des tensions en sein d'équipe pour 12 minutes de fautes et dont un but qui était réalisé dû à une faute d'un Nantais.
Alors après ça c'est dû aussi au caractère particulier des joueurs montpelliérains un petit peu voyous dans leur façon d'aborder le match un petit peu.
On les connaît les montpelliérains, ils sont un petit peu toujours chauds ils aiment la bagarre comme on dit enfin.
C'est ça. Ils sont très joueurs par rapport à dessus et si tu donnes leur piège c'est fini.
C'est ça et Nantes malheureusement saison on sait Nantes a toujours manqué un peu d'efficacité et quand ça tourne pas en leur faveur qu'ils commencent pas à marquer sur leurs occasions souvent ça tourne plutôt dans le sens où ils marquent pas et ils se font punir en seconde période. Et on l'a vu plusieurs fois, notamment l'année dernière et tout, et il y a encore cette année sur quelques matchs. Nantes avait eu plusieurs réussites, mais surtout en plus, quand il manque le leader technique de terrain, le leader offensif qui est Ludovic Blas, ça complique la tâche. surtout face à Montpellier, qu'on ait quand même des qualités offensives.
Et du coup, en 7 minutes, puisqu'à la 64e, c'est Mollet qui reprend une frappe de Chavagnier, je crois.
Oui, c'est ça, je crois.
Ouais, Teddy Chavagnier, le grand artisan du match. Hein. Ouais.
Oui, 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 dans tous les sens du terme.
Bah, c'est un très bon joueur. Hein. Mamadou Sakho, qui est à Montpellier, l'avait dit lui-même qu'il ne se comprenait pas pourquoi il visait pas plus haut et pourquoi il était encore là, alors qu'il a un talent, fou, hein, ce joueur. Hein. Il peut légitimement, il pourrait prétendre techniquement, s'il évolue peut-être dans un plus grand club, à l'équipe de France, parce qu'il a vraiment un sacré coup de pied. Donc,
c'est ça.
Donc voilà.
Oui, il a une belle frappe, mais après, je sais pas. Il aime bien son état.
Oui, après, c'est quelqu'un qui a
fonctionnement. C'est quelqu'un qui est toujours resté. Au départ, il était à Nîmes.
Ouais.
Après, à Montpellier.
Bah, il est dans la région.
Il reste sur sa zone
familiale.
Dans son groupe familial que s'aventure de part.
C'est ça, exactement.
À côté des caravanes.
Ouais, non, qui était 7e avant cette rencontre, qui est toujours 7e après cette défaite, mais rejoint par 3 autres équipes. Alors, bon, il n'y a pas le feu au lac, mais bon, bah, c'est des points qu'on verra plus, en tout cas, pour les Canaries. On va parler de nos voisins et on va parler de Rennes. Rennes qui pouvait faire une belle opération et revenir sur Lens en cas de victoire à 3. Mais il n'en a rien été, Jérém, tu peux nous en parler, ce nul qui fait pas avancer les Rennais.
Ça, tout à fait. Rennes, on pensait qu'ils pouvaient enchaîner un 4e match avec victoire. Et là, ils ont fait un match nul. Bizarrement, le match a bien démarré, ils menaient 1-0. Et puis, en fin de première mi-temps, ils se sont effondrés, ils ont pris 2 buts d'affilée. Ils ont mis toute la deuxième mi-temps à reproduire du jeu et pour enfin marquer... Miraculeusement, grâce à Terrier, sinon à part ça, le fond de jeu rennais du match de Zugen a été très mauvais, contrairement à ce qu'ils nous ont montré ces deux matchs.
Ouais, pour eux, il y aura un match de Ligue Europa Conférence cette semaine.
Où ils peuvent, s'ils regagnent contre le FC Moura, ils peuvent maintenir leur tête au classement de la poule de Ligue Europa Conférence, devant Tottenham.
Sachant que Rennes joue Lyon dimanche prochain, dimanche soir, donc... Une belle semaine pour les Rennais.
Ouais. Il y aura du travail sur la planche pour les Rouges et Noirs. Bon, on va s'occuper maintenant des premiers au classement et on va commencer par les Parisiens. Les Parisiens qui s'imposent face à Lille 2-1.
Oui, bah une victoire un petit peu à l'arraché un petit peu, oui, qui a été mis du temps à se dessiner. Lille qui avait ouvert le score par Jonathan David, ils avaient fortement commencé le match avec une occasion dès la première minute, bien arrêtée par Donnarumma. Et puis en seconde période, y a un peu le travail de Sapp, on connaît les Parisiens. Souvent peut-être un petit peu aidé par l'arbitrage. Bon, ça c'est on va dire c'est habituel maintenant cette année, hein, faut s'y faire, hein, les buts dans les dernières minutes pour Paris comme par hasard. Mais bon, il mérite, moi je trouve le match nul aura plus été mérité. Marquinhos qui marque à la 74e, qui égalise, et Di Maria qui vient marquer à la 88e.
Di Maria
qui fait un plutôt bon match en seconde période. Donc c'est une victoire encore des Parisiens qui gagnent. Qui sont largement en tête du championnat, mais qui, en fait, ne convainc pas.
Ils vendent très mal la Ligue 1. Hein. Mmh. Comment tu peux la vendre à l'étranger avec une équipe de Paris qui fait semblant de jouer, qui se met à jouer qu'en fin de match? Franchement, c'est un très mauvais ambassadeur pour la Ligue 1.
Qui joue sans Cesta, en plus.
Oui, bon, après, Mbappé était blessé, Messi aussi.
Ouais. Et Neymar est l'ombre de lui-même depuis plusieurs matchs.
Mais sur le coup, il n'a pas été si mauvais. C'est un peu lui qui a.
Oui, c'est pas le pire.
Et là, c'était vraiment Neymar. Ça fait 8 matchs. Il loupe tous ses dribbles, tous ses tirs, il est doux. À part trouver par terre, il ne fait pas grand-chose d'autre.
Ouais, c'était Di Maria l'artisan de la victoire.
Et globalement, Paris, depuis 4-5 matchs, même s'il gagne, ou font match nul contre l'OM lors du Classico. Le fond de jeu est très inquiétant. C'est poussif. On sent qu'il n'y a pas d'envie. Et quand je vois le résultat qu'il y a eu dans les matchs de champion contre Leipzig, où ils ont gagné miraculeusement 3-2, c'était très compliqué en défense et en attaque. Ils n'arrivent pas à se motiver. Et mis à part, ils veulent compter sur leur quatuor Di Maria, Messi, Neymar et Mbappé. Sauf que ce côté-là, ensemble, ils n'y arrivent pas.
Mais c'est ça. Mais c'est en plus, on nous a vendu un petit peu, avec l'arrivée de Messi, c'est bon, on a Mbappé, on a Messi, on a Neymar, on a l'attaque du jamais vu, c'est la meilleure attaque du monde, la meilleure attaque dans toute l'histoire, c'est du jamais vu. Mais alors, sur le papier, ça fait rêver, mais sur le terrain, c'est autre chose. Hein, et Messi, qui a toujours pas marqué, je tiens à signaler qu'Adil Rami, lui, a déjà marqué. Donc, alors, je veux pas remettre en cause, est-ce qu'il est meilleur que Messi ? Non, je blague. Mais c'est vrai que Messi, ça marche pas trop pour l'instant en Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est un petit peu mieux. Mbappé, qui finalement fait des stats, finalement, il fait ses stats, mais il les fait sans les faire. Il est beaucoup moins décisif que l'année dernière. Neymar, qui est un petit peu. Enfin, est-ce qu'il est sur le déclin ? Moi, je pense que oui, parce que là, on le voit de plus en plus d'année en année.
Il était en forme hier pour fêter Halloween. Hein.
Oui, à chaque fois qu'il y a une fête, de toute façon, lui est présent, bizarrement.
Et c'est vrai que par rapport au attaque du PSG, on a plus l'impression que ce soit une attaque plus individuelle et pour les stats personnelles que des stats collectives. Parce que quand on les voit ensemble, ça matche pas. Et chacun pense à être la lumière de ce match-là, contrairement à vouloir éclabousser de lumière ses coéquipiers et jouer ensemble magnifiquement.
Ouais, pour eux, il faudra convaincre mercredi à Leipzig. Allez, bon. On s'occupe
Juste un mot, parce que Xavier m'a envoyé un message pour dire qu'il n'est pas du tout d'accord avec vous. Neymar a fait son plus beau match de la saison.
Xavier, il est parisien, c'est ça pour ça.
Je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'humour dans ça.
S'il nous écoute, on l'embrasse, mon Xavier. Allez, les Dauphins, donc c'était Nice et Marseille. Marseille qui a peiné, mais qui ramène les 3 points d'Auvergne.
Oui, mais Marseille qui vient s'imposer 1-0 sur Clermont, un but de Sensing Under. Mais un match assez compliqué pour le Marseillais. Les Clermontois n'ont pas démérité, ils font encore un très bon match. On les voit à chaque fois, les Clermontois, produire du jeu, faire des bons matchs. Donc c'est un peu mal payé pour les Clermontois, mais ça fait du bien du coup pour Marseille.
Le match compliqué pour les deux équipes, puisqu'il y avait énormément de pluie et énormément de vent.
Et énormément de changements dans les effectifs. Bayou qui a démarré sur le banc de touche. Plusieurs titulaires de Marseillais qui n'étaient pas là non plus. Du coup, match compliqué dans les deux sens. Et
il a réussi à rentrer, Bayou ?
Bayou, il est rentré en fin de match, oui.
D'accord, il l'avait libéré.
L'essentiel pour les Olympiens.
Il a été libéré la veille du match.
Libéré, délivré.
L'essentiel pour les Olympiens, c'était de prendre les 3 points et de rester au contact du wagon de tête, puisque Nice.
Nice est encore imposé.
Ouais, Nice, c'est défait d'Angers, notre voisin.
Grâce à un doublé de Nidolor en fin de match. Et
avec un peu de réussite, mais voilà. C'est la touche de Nice en ce moment. Angers qui avait très bien ouvert le score.
Avec Bouffal sur pénalty.
Sur pénalty. Angers avait vraiment dominé toute la première mi-temps. Le premier but d'Andy Delors, il est légèrement détourné par Romain Thomas, ce qui trompe Bernardoni. Et sur le deuxième but en fin de match, il n'y a rien à dire, tellement la reprise en demi-volée est superbe au ras du poteau. À Bernard Denis.
Non, mais c'est un sacré joueur, hein, ce Andy Delors. Hein. C'est un très bon attaquant de Ligue 1. Il était très bon à Montpellier. Donc, franchement, c'est une très bonne recrue pour Nice. Je pense que Nice, qui manquait un peu d'assurance et d'expérience purement Ligue 1 pour le championnat, c'est un très bon renfort. Donc vraiment, il réalise encore, il fait ses stats encore cette année, il produit du jeu. Enfin, c'est un joueur un petit peu qu'on a envie de suivre, quoi. Il est un petit peu fougueux, il a la rage et tout. Donc c'est un bon coup pour Nice, qui du coup conserve sa deuxième place au classement et font encore une très bonne saison.
Vraiment, Nice montre que ils seront là à chaque fin de match.
Exactement.
Et à mon avis, ils vont retourner quelques matchs et je crois qu'on les rencontre dans pas si longtemps que ça. Ouais. Faudra se méfier.
Et ces deux équipes s'étaient rencontrées pour un match en retard, mardi.
Le match qui a été suspendu d'une invasion de terrain par les supporters niçois.
Exactement.
Il a été rejoué et ça finit par un match nul un partout.
Un partout, c'était le score.
Non, il y avait 1-0.
Il y avait 1-0.
Si on regarde, puisque Nice a perdu un point de sanction, pour Nice, ça fait un résultat de 0. Et pour Marseille, c'est un bénéfice d'un point.
Voilà. Très bien.
Un petit match, la victoire de nos voisins brestois, on pense à notre ami Vincent. Là, c'était pas arrivé depuis le début de saison.
Face à Monaco.
2-0 face à Monaco, superbe.
Vous avez montré de l'envie de Lagnac et franchement, Monaco n'a pas existé dans ce match-là. Et franchement, Brest, ils ont sorti les doigts et là, ils ont eu un fatigue sprint vraiment très important, qui leur a permis de racheter ses victoires à 2-0 contre Monaco.
Ouais, une équipe qui avait besoin de points pour s'en sortir dernier du classement, les Brestois.
Avant-dernier, ils étaient derrière les Saint-Étienne.
0 victoire.
Et entre Brest et Nantes, il y a Lorient. Lorient qui n'a pas existé à Strasbourg, une défaite 4-0.
Attention pour nos Canaries, c'est le match de dimanche.
Il y avait aussi le match entre Lyon et Lens. Lens qui faisait un très bon début de saison. Ils étaient sur le podium avant cette journée de Ligue 1. Lyon qui était un petit peu à la peine avec 8 points perdus dans les 10 dernières minutes à chaque fois sur des buts encaissés un peu bêtement à chaque fois, on va pas se cacher. Donc c'était important. Donc une victoire de Lyon, 2-1 avec un but de Toko Ekambi sur penalty et Oussem Aouar. La réduction du score de Kalimuendo en fin de match. A noter un très bon match d'Anthony Lopez qui a su garder le score pour les Lyonnais et pour s'imposer. C'est une bonne victoire pour les Lyonnais dans l'objectif de revenir sur le podium. Donc Lyon qui est actuellement 6e a seulement 3 points de Marseille. C'est plutôt une bonne opération. Ils sont pas décrochés. Lyon qui du coup doit viser la Ligue des Champions et le podium cette année. Eux qui visent aussi d'ailleurs en Ligue Europa, qui joueront contre Prague normalement ce jeudi. Et ils n'ont pas Ligue des Champions cette année, c'est important pour eux de la retrouver. Donc Lyon qui en plus produit du jeu, ils font des bons matchs.
Il fallait battre Lens.
Oui, non, mais Lens qui fait un très bon début de saison. Je sais plus qui a dit ça du côté de Lyon, mais Lens était une des équipes qui faisait sans doute le meilleur jeu depuis le début de saison, qui jouait le mieux, même devant Paris. Même si c'est pas au nombre de points, ça se voyait pas. Mais Lens, qui depuis sa remontée en Ligue 1, réalise de très bonnes saisons.
Il a de très beaux jeux et arrive à trouver des joueurs méconnus qui sont vraiment qui ont un niveau vraiment exceptionnel et qui sont vraiment très très forts. Et niveau collectivement parlant, c'est vraiment une équipe très rodée.
Franck Hess qui fait du très bon boulot là-bas.
Et du coup, Lens perd une place au classement.
Et pour être complet, Saint-Étienne qui arrache un point à Metz avec un lob qui tombe à pic pour Cazerie, reprendre.
De Cazerie, le Marocain, 68 mètres et il a lobé Oukidja, l'Algérien, le gardien de l'Algérie.
Et il va prendre la tête du top but, à mon avis.
Oh, du plus beau but, il n'y a pas de souci. C'était Metz qui avait ouvert le score sur penalty. Sur coup franc,
oui, de Boulaya.
De Boulaya.
Donc c'est un point un peu qui souffle Saint-Étienne, mais bon. Ça les laisse un petit peu subsister.
Que ça soit Metz ou Saint-Étienne, ça les laisse dans le bottom-up de la Ligue 1.
Moi j'ai envie de vous poser une question, est-ce que Saint-Étienne sera relégué en fin de saison?
J'en ai un peu l'impression.
Et franchement, ça serait mérité depuis plusieurs années où Saint-Étienne produit un jeu qui n'est pas très beau à voir. S'en sort miraculeusement ces deux dernières années au classement. Je pense que là, s'ils veulent s'en sortir un minimum et au moins faire bonne figure, c'est qu'il faut rater Puel et que la Puel, depuis l'année dernière, tue le club. Et ainsi que leur dirigeant, Romain et compagnie, faut rater.
Ouais, il faudrait qu'ils arrivent à le vendre le club, je pense, parce qu'ils essayent depuis 2 ans.
Il n'y avait pas un investisseur, un malaisien,
cambodgien.
Oui, un prince cambodgien, exactement.
Et il a fait annuler.
Ouais, ça peut être,
il a décliné.
Il a vu la région, il a visité, il s'est dit finalement.
C'est ça.
On sent le supporter de Lyon.
Et je pense que pour Saint-Étienne, ça leur ferait du bien de descendre en Ligue 2 et prendre l'exemple comme fait Toulouse maintenant en Ligue 2.
C'est ça.
Ils sont fracassés la gueule en Ligue 1 depuis plusieurs années. Ils ont enfin descendu en Ligue 2. Et là, ça fait deux saisons. La première saison, ils ont failli remonter directement. Là, cette année,
on les a battus en barrage.
Et là, cette année, ils sont premiers. Et ils réalisent une saison en Ligue 2 vraiment de très haut niveau.
Oui, c'est très solide Toulouse à chaque fois. Saint-Etienne, j'ai peur quand même pour Saint-Etienne. C'était quand même c'est depuis l'ère Galtier où ça s'effrite de plus en plus.
Voilà, bien sûr.
Et c'est quand même incroyable de jamais réussir à.
Je pense que Puel a plus la main sur rien du tout.
Et faire confiance aux jeunes, c'est bien. Mais trop leur faire confiance et les laisser dans le grand bain comme ça et laisser se démarrer son expérience, c'est très mauvais aussi pour eux.
Ouais, c'est ça, mais Puel, c'est. Je sais pas pourquoi il est encore là, parce que franchement, je sais pas. Est-ce que c'est le fait que ça soit Puel qui soit encore ici, en plus avec son salaire? Enfin, c'est
je
vraiment.
Crois qu'en fait,
incroyable.
Tout le monde voudrait se barrer. Mais
qui veut rester à Saint-Etienne?
Après, c'est l'image de Saint-Etienne.
C'est la banlieue lyonnaise.
Saint-Etienne est un club de relégables, puisque si on regarde les féminines, elles sont aussi relégables.
On va pas faire l'émission sur Saint-Etienne, on n'est pas une radio du Forez. Par contre, on va passer en Allemagne et on va parler du Bayern Dortmund qui, après avoir pris une raclée en coupe face à Gladbach 5-0, s'est bien remis et s'est imposé face à Union Berlin 5-2, doublé de Lewandowski, toujours en route pour le Ballon d'Or.
C'est ça. Toujours en route pour le Ballon d'Or et Lewandowski, qui a, après avoir passé ce match lors du 5-0, s'est repris et a mis un marche en avant dès le début du match et pour faire le break et pour le Bayern de Munich et clôturer ce match-là.
Ouais, aussi. Avec l'attaque de feu qui et tous ont marqué, hein, Leroy Sané, Kingsley Coman et Thomas Müller.
Exactement. Le Dortmund qui s'impose 2-0 face à Cologne, qui conserve sa deuxième place. Haaland qui normalement n'était pas là parce que blessé, hein, Erling Haaland qui potentiellement pourrait manquer une grande partie de la saison. Donc
jusqu'à,
on sait
la
pas
fin, jusqu'à fin de l'année.
C'est ça, donc...
Un coup dur.
C'est un gros coup dur pour Dortmund, sachant que c'est... Et pour lui aussi...
On sait ce que c'est comme blessure.
Non, j'ai pas l'info personnellement, mais
ok.
Ça être musculaire peut-être, je pense.
Leverkusen qui marque le pas, défait chez lui par Wolfsburg.
Exactement, Wolfsburg, Nmecha et Arnold pour Wolfsburg qui s'impose 2-0 au Leverkusen, qui en profite du coup pour remonter à la 7ème place. Wolfsburg qui du coup est en Ligue des Champions cette année.
Dans le groupe de Lille.
Dans le groupe de Lille, donc voilà. Attention, Wolfsburg qui du coup est un petit peu à la traîne. Mais savez-vous quel club n'a toujours pas perdu en Bundesliga ?
Fribourg.
Exactement. Il a triché. Oui, c'est Fribourg. Fribourg qui fait un début de saison impressionnant, qui se retrouve actuellement 3ème de Bundesliga, seulement 3 points du Bayern. Et tout, qui
réalise. Victoire face à Greuther.
Exactement.
Greuther Fürth, merci Jean-Marc, qui eux n'ont pas encore gagné.
Exactement.
Mais donc, pour l'instant, un très bon début de saison pour les joueurs de Fribourg, donc on est content pour eux parce que c'est pas forcément un club très qu'on s'attend à voir en haut, donc ça c'est toujours intéressant de voir des petits clubs comme ça, enfin des plus petits clubs arriver à rivaliser avec pour l'instant avec les grosses bêtes.
Il y a des effectifs assez restreints, enfin assez peu connus et des joueurs assez restreints dans leur niveau. Ils arrivent à avoir une cohésion collective et avancer vraiment en groupe, soit en attaque et en défense. Ils sont collectifs comme il faut et puis ils arrivent à jouer ensemble et sans se contrôler la tête et ils avancent. Ce qu'ils veulent, c'est avancer, marquer des buts.
Exactement.
Un dernier petit mot sur l'Allemagne, pour ma part. Il y avait de la Coupe d'Allemagne et le Bayern Munich s'est fait fesser.
La manita
5-0 par le Borussia Mönchengladbach. Ça ne leur était pas arrivé depuis 1968.
C'est bien d'écouter, Jean-Marc. Hein. On avait ouvert avec ça. Hein. Allez, on passe en Angleterre et
Chelsea qui conserve
le seul des trois premiers du classement à s'imposer.
C'est ça, Chelsea qui conserve un petit peu sa tête du classement et tout avec une victoire 3-0 sur Newcastle, un doublé de Harry James et un but de Jorginho sur penalty. Chelsea qui fait son petit bonhomme de chemin et qui après sa victoire en Ligue des Champions sous les ordres de Thomas Tuchel continue à faire du bon boulot et sont en tête.
Et du très bon boulot. Et City qui perd contre Crystal Palace de Paris de notre ancien champion du monde Patrick Vieira.
Ouais, premier fait d'armes pour Vieira dans cette saison.
Et Crystal Palace qui est une équipe très joueuse et ont vraiment réussi à piéger City. City qui depuis quelques matchs ont du mal à accélérer la cadence et toujours avec un rôle de faux numéro 9 depuis que Kun Aguero est parti. Bagoula n'a pas voulu rentrer d'accord. Je pense que là pour cet hiver, il faudra y penser.
Bah c'est ça, c'est un petit peu leur objectif cet hiver, c'est de trouver un attaquant parce que lorsque va venir surtout les 8e de finale de Ligue des Champions, enfin toute la passe finale,
les grosses échéances,
va falloir trouver cet attaquant pour pouvoir faire la différence parce que sinon ça ne marchera pas et on l'a vu l'année dernière en finale des Champions contre Chelsea, c'est ça qui péchait. À noter City qui a perdu en League Cup. Donc face à West Ham au penalty,
voilà.
Alors que c'était pourtant c'est sur
5-3,
c'est ça 5-3, alors que c'est un petit peu leur compétition où ils ont remporté les 3-4 dernières éditions de League Cup.
Semaine catastrophe hein, pour les Citizens.
Un petit peu un coup dur pour.
City qui marque le pas parce que entre le championnat, la League Cup où ils sont éliminés et en Ligue Champions qui sont pas si bien, sont pas à l'otage, mais favorables, mais c'est pas non plus ça.
Bah, l'avantage c'est que c'est Leipzig et Leipzig qui est un petit peu moins bien que les années d'avant et que c'est que Bruges. Ils vont passer, mais c'est sûr que on l'a vu contre Paris, c'était pas trop ça.
C'est ça.
Exactement.
Allez, on passe en Espagne. Fortune diverse pour les favoris. Le Real s'impose à Elche avec doublé de Vinicius.
Ouais. très grand Vinicius Junior.
Et sans Benzema en plus, il était mis au repos.
Voilà. Ouais. Et Vinicius Junior qui confirme enfin son statut de pépite brésilienne et qui là, il assume vraiment et porte le Real depuis plusieurs matchs.
L'année de la confirmation match. Certainement pour voilà. Vinicius.
Ah, totalement.
Et, ça, et à côté de ça, le Barcelone qui après l'après-Quaman. Ne gagnent toujours pas, ils ont fait juste mal contre Alavés.
Ouais, après une défaite sur la pelouse du Rayo Vallecano en milieu de semaine.
Hein. Et juste avant, avant la défaite lors du Classico contre le Real Madrid.
Ouais, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. De toute façon, quand on voit l'effectif du FC Barcelone, c'est pas étonnant de les voir
ouais,
à ce niveau-là.
Oui, bien sûr. Mais il faut voir que c'est pour l'instant un entraîneur intérimaire.
Et peut-être le retour de
Xavi. Tout Xavi. Le monde veut le retour de Xavi. Xavi
Hernandez.
Qui est au Qatar et qui va être disponible très bientôt, comme Laurent Blanc.
Normalement, c'est vu que les saisons sont décalées par rapport au championnat européen, il aligne normalement en décembre ou en janvier. Donc,
voilà.
C'est
pour donc, je pense qu'ils vont attendre de,
mais
pour
ça va être
remettre
compliqué
Xavi.
Pour eux, parce que comme Barcelone n'a pas l'argent qu'il faut pour payer la clause de départ de Xavi, ouais. Et par information que j'ai eue ce matin, si Xavi doit aller jouer au Barcelone, Il devra payer sa clause de départ à son club actuel.
Ah oui, donc
ils trouveront un arrangement.
Et juste, j'ai un petit mot parce que sur Vinicius du Real Madrid, parce que le Real Madrid est pour l'instant premier deuxième, ils sont deuxième derrière la Sociedad. Voilà. Mais ils font Vinicius qui réalise pour l'instant un très bon début de ses buts, comme tu l'as dit, et qui a quasiment depuis le début de la saison est autant décisif que sur les trois dernières saisons cumulées en championnat.
Parce qu'au niveau de ses stats, il est là aujourd'hui, il est au même niveau que ces deux dernières saisons sur la saison entière.
C'est ça, donc c'est vraiment incroyable ce que fait actuellement Vinicius. Il confirme le talent que le Real avait misé en lui, et surtout le fait que Eden Hazard, il est un peu cuit dans l'œuf, ça. Je pense qu'il reviendra pas au niveau qu'il était et qu'au Real Madrid ça prendra jamais.
Il va falloir le vendre.
Le vendre. Et le Real Madrid qui du coup avait besoin un peu depuis le départ de Ronaldo de trouver quelqu'un d'autre pour pouvoir passer un cap, suppléer Benzema. Vinicius cette année va très bien faire le taf.
Tout à fait.
Ouais, hier on terminait cette journée espagnole. L'Atlético a battu le Betis dans le match au sommet 3-0 et revient dans les places européennes.
Voilà. Il revient à la hauteur du classement.
Et effectivement, tu l'as dit, c'est la Sociedad qui a battu l'Atlético Bilbao hier, qui s'empare du fauteuil de leader en Espagne.
Avec un match de moins pour le Real Madrid, ils ont juste un point de retard, donc le Real pour repasser devant.
En Italie, et un sommet hier à Rome, l'AS Roma recevait le Milan, et le Milan de Zlatan s'est imposé 2-1 avec un but de Zlatan. À 40 ans, il continue d'affoler les compteurs.
Et un pénalty provoqué par Zlatan.
Exactement, donc la Roma s'est bien fait zlataner.
La Roma de Mourinho.
Exactement.
Et Zlatan nous prouve encore qu'aujourd'hui, qu'à 40 ans, le mec sait tout faire. Il est infatigable et physiquement parlant, c'est un monstre.
C'est le Roger Federer du football quasiment.
C'est ça.
Et il est quand même incroyable ce joueur d'être à ce niveau-là encore après son âge, comme tu le dis. Donc c'est vraiment. Et puis le Milan qui fait une très bonne saison pour l'instant, avec Giroud qui réalise une très bonne saison sur le nombre de matchs qu'il a.
Le Milan AC, il me semble qu'il a fait une seule défaite cette année en championnat.
Non, même pas.
Un
match nul. Ils sont,
comme le Napoli.
Comme le Napoli, ils sont ex-aequo face au Napoli.
Exactement.
Ouais, donc, 28 points.
Le Napoli qui s'est imposé
sur 1-0. 30 possibles. Incroyable début de saison des deux clubs transalpins.
Dans le derby du Vésuve contre Salernitana, l'équipe de Franck Ribéry.
Exactement, ils ont perdu une victoire 1-0 du Napoli, un but de Piotr Zielinski.
Exactement. Et la Juve qui continue à...
Il nous faut une Barça la Juve là, j'ai l'impression.
C'est ça.
À faire du surplace, encore une défaite, hélas, pour eux, à Vérone.
Elle est pas mal celle-là. Ouais.
Et deux buts d'un certain Simeone.
Giovanni Simeone, le fils de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético.
Il y a beaucoup de fils d'eux en Italie. Hein. On a le fils
de Maldini.
Daniel.
Daniele qui est rentré dans l'effectif cette année, qui a marqué son premier but il y a 3 matchs de ça.
Donc c'est. Non, il y a pas mal de fistons et tout en Italie.
Ouais, et l'Inter qui se retrouve maintenant à 7 points des leaders.
Avec une victoire quand même contre Udinese. C'est ça, donc victoire 2-0 avec un but de doublé de Joaquin Correa, l'ancien de la Lazio. Donc l'Inter qui essaye d'un petit peu de se relancer pour revenir sur les pas de Naples et du Milan.
Allez, petite projection pour les clubs français engagés en Ligue des Champions demain et mercredi. Bon, pour Paris, il va falloir montrer autre chose parce que là, ça sera sur la pelouse de Leipzig. Et vu ce qu'on a vu au match aller, on a du souci à se faire pour nos Parisiens. Donc, moi, je pense au partage des points.
Moi, je me dis, c'est à Leipzig. Je vois un grand Nkunku qui arrive pour l'instant en début de saison incroyable et qui... quand on voit ce qu'il fait, je ne comprends pas pourquoi il est pas en équipe de France, parce qu'il fait vraiment il a vraiment un talent et il le prouve à Leipzig exceptionnel. Est-ce que Paris aurait dû le garder? Bon, ça c'est un autre débat, mais je vois bien Leipzig faire un bon truc face à...
Une victoire face, alors
ouais, une victoire. Alors peut-être pas 3-0, mais
à part victoire qui va faire mal à Paris alors. Exactement. Parce que en 4 matchs, il y aurait que 4 points.
Et ça serait pas... Ça. Toi Jean-Marc,
Tu vois quoi? Je le verrai pas déjà, parce que je vais voir du handball. Non, on est deux équipes avec plein d'attaquants, un bon 3-3.
6 buts, on signe.
Voilà, c'est ça.
Et pour Jérém?
Moi, je vois bien ça, un petit 2-1 pour Leipzig et un double de Nkunku.
Voilà, moi je suis d'accord avec Jérémy.
Bon, à suivre, on verra lundi prochain si c'était la victoire ou le nul. Et pour les Lillois, ça va être très dur à Sanchez-Pirouane face au FC Séville.
Séville, on les connaît, c'est avec le Séville de Unai Emery.
Troisième de Liga.
N'importe quoi, il y a Villarreal, Unai Emery. Mais anciennement, Unai Emery. Mais c'est vrai qu'on les connaît avec Diego Carlos, l'ancien noté, notamment, ou encore Jules Koundé. Donc ça va être très intéressant ce match contre Lille pour voir s'ils peuvent espérer la qualification pour les huitièmes de finale, parce qu'ils ne sont qu'à un point de Séville, donc ça va peu faire la différence.
Sachant qu'au match dernier ils ont réussi à résister pour le match nul. Bon, pas sûr qu'ils arrivent à trouver les ressources
pour
sur place là-bas aussi à inverser la tendance.
J'ai envie de vous dire, si ils arrivent justement à rester sur un match nul 0-0, ça serait une belle perf.
Exactement.
Tout à fait.
On l'espère.
Allez, on a été complet sur le football. On va passer au handball. C'est Hashtime.
Hashtime. Money time. Toute l'actualité du HPC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, info, interview.
Hashtime. Money time. Et la semaine du H a commencé en Ligue européenne par la réception de Lemgo à la H Arena. Alors j'ai envie de dire, les Nantais n'étaient pas mis dans les meilleures dispositions pour jouer un match de Coupe d'Europe. Ça a été compliqué, Jean-Marc, en première mi-temps. Le H qui a couru derrière le score. D'abord à 5 buts, ils sont revenus à la mi-temps à 10-12, donc moins 2 pour les Nantais. On se dit à la reprise de la deuxième mi-temps et le fabuleux départ de toute l'équipe.
Oui, parce que Nantes va marquer 4 buts, faire un 4-0, on se dit ça y est, c'est bon, ils ont trouvé le bon cheminement. Et puis
ils ont pris un 9-3 dans la foulée. Le score était ensuite de 21 à 14 pour... de 21 à 16 pour les Allemands. Nantes qui doit s'incliner, une équipe sans génie, qui doit se reprendre.
Une équipe un peu du H, qu'on voit cette année en très en dents de scie, avec parfois des très bons matchs et parfois des matchs un peu moins bons, voire même beaucoup moins bons, et qui se font un petit peu surprendre.
Et malgré des bons gardiens, nouvelle, c'est le retour d'Emile Nielsen, mais...
Mika Robin qui fait vraiment le taf.
Mika Robin, il a encore fait un très bon match, on l'a vu tous les deux. Mais une nouvelle fois, en attaque, pas brillant.
Pourtant, il y a brillé.
Il n'y avait pas beaucoup de solutions. Il n'y avait pas beaucoup de solutions pour cette équipe qui est tombée sur une équipe très solide, une équipe allemande très solide. Au sortir de la rencontre, Thibaut Brier était dépité. Et on va l'écouter au micro de Prune.
Thibaut, bonsoir. Bon, j'imagine beaucoup de déceptions ce soir, mais vous n'avez pas mis tous les ingrédients pour gagner ce match, notamment en attaque, ça manquait d'efficacité et puis d'agressivité en défense.
Ouais, on a très mal commencé le match. Après, je suis vraiment en air. Je sais pas ce qui s'est mal passé, peut-être que c'est l'agressivité, peut-être que je sais pas quoi, mais des matchs comme ça, chez nous, on doit les gagner, on n'a pas le droit, on veut terminer premier du groupe. On n'a pas le droit de laisser des points ici. Non, c'est nul ce qu'on fait.
Ouais, cette équipe, elle nous a posé beaucoup de problèmes. On n'a pas trouvé de relation avec les pivots, avec les ailiers. Vous êtes resté dans l'axe et finalement impuissant.
On a joué, techniquement, peut-être qu'on aurait peut-être pu faire plus de duels, je sais pas, mettre plus d'agressivité, d'engagement dans ce qu'on a fait. Honnêtement, j'ai pas la clé. C'est la preuve. Ça fait, je crois que c'est une des premières fois que je joue contre une équipe allemande et ils mettent beaucoup de densité, beaucoup d'impact. Je sais pas.
Pourtant, elle était prenable, surtout au sortir la première mi-temps avec cette entame plus 4 qui devait vous remettre dans le match et vous avez baissé de pied et vous avez pris un 9-3 du coup.
D'accord, on a perdu des ballons aussi. J'ai pas capté qu'on avait pris un 9-3. J'ai pas.
Merci Thibaut.
Et j'ai envie de te dire, parce que c'est vrai que t'es dans l'analyse, t'es froid dans l'analyse,
même si tu
as totalement raison. Faut retenir quand même, moi ce que j'ai envie de retenir, parce qu'il n'y a rien de dramatique, puisqu'il faut être dans les 4 premiers d'un groupe de 6, ça devrait passer, c'est l'abnégation quand même, et les valeurs courage qu'ils ont mis en fin de match, en revenant d'un... Ils étaient menés 25-20 à la 51e, et ils vont revenir échouer d'un but 27-28.
Ouais, mais une compétition qu'ils n'ont pas pris par le bon bout. D'ailleurs, c'est pas les seuls, puisque lors de cette journée, tous les clubs français engagés en Ligue européenne ont perdu, hein, que ce soit Toulouse, Nîmes ou Aix. Donc, il va falloir se reprendre. L'occasion se représentera le 16 novembre pour le H et ils recevront les Danois de GOG. Et là, il faudra prendre les 2 points avant le triptyque à la Al XXL, où ce sera Benfica qui nous rendra visite. Exactement. Benfica qui a fait le job sur son parquet face aux Russes de Medvedi Tchekov. Une belle victoire pour le Benfica qu'il faudra surveiller dans ce groupe, Jean-Marc.
Exactement. On les voyait. Pourtant, on sait qu'ils ont éliminé Rhein-Neckar Löwen. Mais on y croit qu'à moitié, ouais. Mais il faudra se méfier.
Attention au handball portugais, le Sporting lui aussi s'est imposé mardi à l'extérieur.
C'est du béton quand.
En championnat, le H se déplaçait à Saran et petite victoire mais essentielle pour les hommes d'Enterios, victoire 30-28
avec un H qui a oscillé entre le très bon et le... Je te dirais qu'à un moment donné, ils menaient 14-7 en première mi-temps, où ils étaient vraiment bien. Du coup, il y avait Emil Nielsen qui a fait...
Nielsen de retour dans les cages.
La première mi-temps.
Pas beaucoup d'arrêts.
Mais quelques arrêts importants. Et puis même Mika Robin qui n'a pas énormément non plus d'arrêts. Il a un double arrêt sur un joueur qu'on était content de revoir. C'est notre petit lion préféré, Matteo Faduil, qui a été prêté à Saran. Il reviendra à Nantes. Mais Nantes, finalement, qui s'est laissé remonter gentiment pour faire public au public saranais qui était venu en nombre voir ce match. Et puis, à la finale, un 30-28.
Ouais, avec un côté gauche assez efficace. Hein, en défense, Thibaut Brier à 5 sur 8. Et puis, en attaque, Valero 7 sur 8. Donc ça, c'est plutôt la bonne satisfaction pour Alberto. Lazarov qui se réveille un petit peu aussi, un peu en dents de scie depuis le début de la saison, qui alterne le bon et le moins bon.
La bonne surprise de tout ça, c'est au classement, puisque le gros match de la semaine, c'était PSG qui se déplaçait à Aix dans une salle comble.
34-26 pour le Paris Saint-Germain.
35-24 pour les...
24. Pour les hommes d'Anti.
Voilà.
Lourde défaite, hein, qui profite au H, qui revient du coup dauphin du Paris Saint-Germain.
Exactement, il passe deuxième à la différence de but.
Exactement, ça range bien l'équipe du HBC Nantes.
Bien.
Et rien n'est facile dans ce championnat, puisque Montpellier aussi a été en difficulté chez le promu Nancy.
Oui.
Petite victoire, 33-30.
Oui, dans la salle Jean Veil qui était bien remplie, depuis qu'ils jouent au Palais des Sports, ils étaient devant 4000 spectateurs, ce qui est très 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 bien.
Ah bah ils n'ont pas veillé pour voir ce match.
Et Nîmes aussi, Paris qui a piétiné sur le parquet de Istres hein, pour un match nul 29-29. Donc rien n'est simple pour personne.
Quel combat entre Nîmes et Istres et une égalisation dans la dernière minute et Nîmes qui va rater l'occasion de l'emporter.
C'est très très serré hein, pour l'instant au classement parce que Nantes est deuxième avec 11 points.
Tout comme Aix.
Derrière, il y a trois équipes à 10 points, Saint-Raphaël, Chambéry et Cesson. Et derrière, il y a encore trois équipes à 9 points qui sont Nîmes, Montpellier et Chardon.
Ah oui.
C'est un championnat très très serré pour l'instant.
Et c'est Cesson qui assure très bien son début de saison. Hein. Cesson dans le top 6 de la Liqui Moly Star League. Allez, un mot des féminines, les Neptunes.
Voilà, mais juste avant, je te donne quand même le programme. Il y a une petite pause pendant 10 jours et après 3 matchs en 6 jours, ça sera et 3 réceptions à la
au XXL.
Non,
à la H Arena d'abord. Ça commencera avec la Coupe de France.
Coupe de la Ligue, quart de finale Créteil. Après, ça sera Istres en championnat et tu le 13. Et du coup, tu as dit c'est GOG le 16.
Le 16, allez, on passe au fil. Les Neptunes.
Eh bien, les Neptunes qui reprenaient après une petite pause, qui se déplaçaient à Besançon. Et puis ben, ça s'est mal passé. Hein. Les Nantaises qui étaient menées d'un but à la mi-temps, 16-15. Le match était relativement équilibré en première mi-temps. Et puis, elles se sont écroulées en fin de match grâce ou à cause de l'ancienne Nantaise Camille Aoustin qui va leur faire beaucoup de mal en mettant 3 buts dans les 5, entre la 45e et la 50e.
Et attention pour les Neptunes, hein, au classement, ça dégringole. Hein.
Ça recule un petit peu puisqu'elles sont 7e, mais là c'est encore un championnat très serré. Parce que si tu regardes, il y a deux équipes qui sont en tête. Les deux équipes qui jouent en jaune et bleu, Bourg-de-Péage et Metz, avec 18 points, 6 victoires. Deux équipes qui sont à 16 points, Brest.
Et Paris 92.
Et Nantes et ex-aequo, donc à la 7e place avec 12 points.
À la 6e place
ex-aequo avec Besançon, leur adversaire.
Il y a Dijon qui est intercalé du coup entre les 5e avec 13 points.
Exactement.
Ouais, il faut se reprendre.
Et au programme, le super match. Hein, on annonce un presque complet. Il reste quelques places. C'est mercredi, la réception à 20h des Messines.
Ouais, du spectacle à Mangin-Beaulieu.
Qui ont gagné en Ligue des Champions.
Pour les amoureux de handball.
Comme Brest d'ailleurs.
Ouais, allez, on en termine avec le handball. On va parler des autres clubs nantais, Jean-Marc.
Oui.
C'est Score en Stock.
Money Time. Score en Stock. Résultats, analyses, classements et agenda des clubs nantais. Score en Stock. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et tu vas nous parler de volley.
Eh oui, on commence par le volley. On va commencer par les dames.
Pas volley celle-là.
Exactement. Mardi, il y avait un gros match pour les Nantaises avec la réception de Cannes qui était invaincue à ce moment-là. On verra que ça a évolué par la suite. Victoire 3-7 à 2, les Nantaises qui gagnent les deux premiers sets. Et plutôt bien. On se dit, c'est bien parti. Puis ben, après, gros coup de mou, elles perdent les deux derniers. Le troisième et quatrième, pardon. Et puis un cinquième set qu'on a cru qu'elles allaient perdre. Et puis finalement, elles l'emportent 15-12 grâce à leur pointu Jaylin Kaney. Et on va écouter Sania Gomans.
Alors, avec Sania Gomans pour cette belle victoire 3-2 face à Cannes, un gros, gros match de toute l'équipe.
C'est vrai, un grand, grand match. Je suis super contente qu'on ait réussi quand même gagner ce cinquième set parce que ce n'était pas facile après le deuxième. On se permet que Cannes, elle nous dépasse et prend leur niveau. On savait que Cannes, c'est une belle équipe, hein, mais on devait finir ce match au 3-0 si c'était possible de faire. Et je pense que c'était possible. Mais bon, il nous a mis en difficulté et malheureusement, on a perdu ce troisième et quatrième set. Mais bon, quand même, là, au cinquième set, on a bien pris chose en main et voilà, on a gagné le match et je suis super contente et trop fière.
On a vu vraiment des valeurs collectives et de courage. L'équipe n'a rien lâché, aucun ballon, il fallait tout tenter, tout jouer.
C'est ça, il ne faut jamais, contre des équipes comme ça, qui sont vraiment les bonnes équipes, il faut jamais lâcher, il faut se dire il faut aller chercher chaque ballon, il faut se battre pour chaque ballon, prendre des ballons qui ne sont pas possibles à prendre. Et c'est comme ça qu'on peut gagner ces matchs.
En plus, l'ambiance était là.
Ah non, franchement, un public magnifique. Franchement, je suis super contente. Ça fait chaud au cœur que c'est comme ça. Il y avait tellement du monde. Ça nous a aidé énormément dans les moments surtout difficiles. Et quand c'est, voilà, quand c'est serré au cinquième set, ils étaient vraiment là, vraiment pendant tout le match. Vraiment, je suis super contente qu'il y avait autant du monde et que, voilà, enfin, on peut jouer contre nous. Des grosses équipes, mais avec un public qui est comme ça, juste au top.
Et avec un tel spectacle, je pense qu'ils vont revenir dès le prochain match.
J'espère bien et je les invite tous qui viennent. Franchement, chaque match, dès que c'est possible, qu'ils viennent, qu'ils nous encouragent, parce que c'est eux aussi notre clé de pouvoir gagner les matchs.
Et ouais, avec cette victoire, Nantes qui passe son adversaire du soir et se retrouve troisième au classement.
Exactement, puisque entre-temps, il y avait aussi un autre match. C'était samedi, le déplacement à France Avenir et une victoire 3-1. Et du coup, au programme, ça sera samedi, la réception de Saint-Raphaël à 19h. Et faites comme mon invité de mardi qui a adoré passer un très bon moment. J'étais au match avec Martin Lacroix mercredi et il a passé un très bon moment au volet. On parle des garçons ?
Ouais, qui devaient réagir après la défaite à Duguay.
Eh oui, puisqu'ils avaient perdu eux aussi dans la semaine, eux aussi. Alors du coup, c'était eux aussi contre Cannes. Une défaite 3-7-2. Et samedi,
Nantes, réception de Tourcoing.
Exactement, et une belle victoire, 3-7-1. Non, pardon, si c'est ça.
3-7-1,
si, j'étais en train de me mélanger. Oui, ils avaient perdu pas 3-7-1 et ils ont gagné 3-7-1. Je m'étais mélangé. Du coup, les garçons, eux, ils vont se déplacer à Narbonne le 6. Donc le 6, c'est
samedi.
Qui est au-dessus d'eux au classement. Pour l'instant, les boys se sont 7e avec 3 victoires et 2 défaites.
Ouais, une entame correcte pour les boys. Allez, on va parler de basket maintenant et de l'Hermine.
Exactement, l'Hermine qui
on parle de Pro B.
Et, tout à fait. Puisque nos deux équipes sont au deuxième échelon, que ce soit les garçons ou les filles. L'Hermine qui recevait un énorme challenger à la montée, hein. Enfin le principal candidat.
Chalon-sur-Saône.
L'élan Chalon-sur-Saône. Équipe dans laquelle joue Michael Gélabal, Antoine Dio ou Garbitch. Équipe qui était championne de Pro A en 2018.
Ah oui.
Nantes s'est bien battue, mais malgré qu'ils aient mené je crois que c'était 12-25, 14-5, pardon. Au début du premier quart, ils ont fini par perdre le premier quart 27-25, le deuxième 27-22. Et puis au fur et à mesure, ils ont perdu un peu le rythme. Défaite dans le troisième 24-17 et score partagé dans le quatrième 22 partout.
Et ça fait 100 points dans la besace.
Et ça fait 100 points et on écoute la réaction un petit peu déçue de l'entraîneur Jean-Baptiste Lecronier.
Vous savez plus trop sur quel pied danser. Ça, c'est notre manque de rigueur à nous, dans l'exécution de ce qu'on est censé faire sur ce premier rideau défensif. Et on a été à côté ce soir, complètement dans ce travail-là. Donc on est coupable d'avoir aussi donné à cette équipe, je pense, beaucoup trop de rythme sur le demi-terrain, elle qui n'attendait que ça. Il ne faut pas oublier la qualité qu'il y a en face. Mais ça, derrière, nous, on est coupables ce soir de ne pas avoir été, je veux dire, rigoureux et suffisamment disciplinés. Et ces petites erreurs-là ont de grandes conséquences parce que on a une trop grande fébrilité défensive. Voilà. Sur cette première mi-temps, en tout cas, on les lance clairement trop facilement dans leur match. 27 points dans le premier quart-temps, 27 points dans le deuxième quart-temps. Et si vous prenez le premier quart-temps, je ne sais plus toutes les minutes et tout ça, mais sur les 4 premières minutes, ils n'ont pas mis de points. 5 points sur les 4 premières minutes, donc ça veut dire qu'ils en mettent 22 en 6 minutes derrière. Alors, on sait que cette équipe, elle a la faculté à trouver des shooters et à pouvoir trouver une très belle adresse. Jusqu'ici, ils ont pris les mêmes tirs qu'ils n'ont pas mis dedans. Ce soir, ils tombent dedans. Tant pis pour nous. Mais par contre, on ne les a pas suffisamment fait douter. On n'a pas suffisamment été faire l'effort défensif de plus. Mais ça, c'est la conséquence. Avant toute chose, c'est ce qui se passe sur le ballon. Donc moi, je vais regarder les choses sur lesquelles nous, on est coupables. Et je pense que je vais avoir mal aux yeux.
Et première défaite de la saison pour l'Hermine.
Oui, en championnat. Donc du coup, au classement, l'Hermine est quatrième et ira jouer vendredi à Évreux pour essayer de relancer la machine. Du côté des filles, les déferlantes qui ont été perdre après une deuxième prolongation, en deuxième prolongation à Calais, 92-83, et qui recevront Strasbourg le 6.
Un mot quand même des représentants français en Euroleague, Charles, qui cartonnent l'ASVEL et Monaco.
Exactement, l'ASVEL et Monaco qui font un bon début de saison en Euroleague avec un...
Du jamais vu,
l'ASVEL qui est actuellement 6ème d'Euroleague, hein, avec pour l'instant 5 victoires et 2 défaites. Une très grosse victoire au Panathinaikos d'Athènes, 84-70, avec surtout un énorme Eli Okobo, l'ancien meneur des Suns, celui qui est passé par la NBA, avec 35 points, 2 passes et 4 rebonds. Donc un Eli Okobo qui réalise pour l'instant un excellent début de saison avec l'ASVEL. C'est vraiment une très bonne recrue, sachant qu'on sait que l'ASVEL a perdu des joueurs, dont notamment Gershon Yabusele, notamment Norris Cole. Donc c'est vraiment une très bonne recrue, Eli Okobo. On sait qu'ils ont les jeunes, ils ont aussi Kostas Antetokounmpo, le frère de Giannis Antetokounmpo, le jeune frère, qui marque 12 points et prend 6 rebonds. Et donc on est vraiment pour l'instant l'ASVEL qui réalise donc vraiment des très bonnes performances. Il continue donc à bien performer et donc se maintiennent dans la tête de l'Euroleague. On espère qu'ils joueront du coup les playoffs en Euroleague.
Il faut être dans les 8.
Il faut être dans les 8, qui n'ont pas été l'année dernière. Donc cette année, on espère, ils sont pour l'instant 6e. De son côté, Monaco pour l'instant est 8e avec quand même 4 victoires et 3 défaites. Monaco qui est pour l'instant bien équilibré et qui surtout a fait une grosse victoire à domicile contre le CSKA Moscou 97-80, avec un bon Danta Hall qui met 17 points et délivre et prend 10 rebonds. Donc une bonne prestation des monégasques qui une marque très partagée. Andujevic qui marque 16 points, Diallo qui marque 10 points et surtout Mike James qui en sortie de banc prend 10 points et délivre 8 passes décisives, le meneur des Nets l'année dernière. Donc on voit avec ils ont que Monaco qui ont aussi un très bel effectif. Donc on espère pour ces deux clubs français espérer être dans le top 8. J'y crois pour l'ASVEL qui est vraiment un très bon collectif. Monaco, ça sera peut-être un peu plus dur, mais ils peuvent s'accrocher. Donc on verra bien, c'est que le début.
Ouais, on va suivre ça, mais l'ASVEL, on sait que c'est un club qui se professionnalise avec son président Tony Parker. Exactement. Qui met vraiment le paquet pour en faire un grand club d'Europe. Allez, on va rester sur nos clubs nantais et parler des Corsaires, Jean-Marc.
Exactement, les Corsaires qui recevaient Épinal.
Au
Petit Port, exactement, c'était samedi. Un match que les Corsaires ont mené 4-0 entre le premier et le deuxième tiers-temps. Et puis là, Nantes s'est arrêté de jouer. Et puis, a encaissé 4 buts de l'équipe spinalienne, qui était pas forcément favori. Et heureusement, dans l'overtime, c'est Gagnon qui va donner la victoire aux Nantais. Malheureusement, ça fait une petite place un petit point de perdu. Au classement, ça ne change pas grand-chose. Ils sont 7e. Mais on va écouter la réaction de Martin.
Alors, avec Martin Lacroix pour Radio Prune, après cette victoire en prolongation 5-4 face à Épinal, après avoir mené 4-0.
Oui, c'est dommage qu'on prenne juste 2 points au lieu de 3 parce que... Écoute, je pense qu'on avait le contrôle de ce match-là clairement. Puis je pense que ce qui les a vraiment ramenés, on va dire, ce qui leur a redonné d'espoir, c'est vraiment le fameux but qu'on prend en fin de deuxième période, alors qu'à ce moment-là, on menait 4-1. Puis là, on se prend, je pense qu'à quelques secondes de la fin du deuxième tiers-temps, on leur donne ce but-là. Puis, évidemment, qu'ils ont poussé pour revenir dans le match, mais on a fait des erreurs qui sont impardonnables dans le sens que on a créé des revirements. Quand tu mènes par 2 buts, tu ne veux pas créer des revirements comme ça. Puis, on en a créé un autre au troisième tiers aussi qui les a ramenés dans le match. On a perdu une bagarre à 1 contre 1 qui a été sur le but égalisateur. C'est une simple bagarre 1 contre 1 devant le filet. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Écoute, mais le côté positif, on est allé chercher finalement la victoire en prolongation et même pas, on n'a pas besoin de se rendre au tir au but pour, un quatrième match consécutif. Sauf que ça fait quand même 4 matchs en ligne qu'on se rend en prolongation. Puis, bel effort de Mathieu Gagnon à la fin justement pour nous délivrer. Puis, c'est vrai que sur l'ensemble du match, on va dire que c'est mérité. Puis je pense que ça aurait pu faire... Déjà que ça nous... On n'est pas content, je veux dire, de s'être fait remonter de 4-0 à 4-4, mais ça prouve que le hockey, c'est jamais fini. Un match n'est jamais terminé. Puis je pense qu'on a fait des erreurs mentales parce que c'est des... Voilà. Puis après ça, ben écoute, on a trouvé le moyen, on a pris 2 points. C'est dommage qu'on prenne pas 3 points. Quand tu mènes 4-0 puis tu prends pas les 3 points, tu sors juste là avec 2 points. Déjà là, mais j'ose pas imaginer par contre si on avait perdu ce match-là. Je veux dire, là, au moins, on a trouvé le moyen de. Puis le public était présent ce soir, la patinoire était pleine. Au moins, les gens ont eu de quoi célébrer avec le but en prolongation. Ils ont vu des beaux buts, des belles actions aussi. Mais on a eu un coup de mou, puis des erreurs qui nous ont fait mal. Puis après ça, on s'est mis tout simplement à paniquer. Voilà.
Et un dernier mot de sport local pour nous parler de l'équipe qui cartonne et qui est leader de sa poule. C'est le FC Nantes féminin qui se déplaçait dimanche à Vandenheim en Alsace. Une victoire 5-0 avec un doublé de Ribera, un but d'Eloissant, un but de Lelarge et un but de Pian. Les Nantaises qui reçoivent dimanche à 15h au stade Marcel Sopin, où il y a 1800 places à remplir. Je vous invite tous à y aller. Je vous rappelle que c'est gratuit. Donc allez voir une équipe qui n'arrête pas de gagner et qui est en tête de son groupe.
Et qui montera peut-être en Ligue 1. Donc
on l'espère.
On les encourage, nos féminines du FC Nantes. Allez, il nous reste 5 minutes pour débriefer le reste de l'actualité. C'est Multizone.
Money time. Multizone. Tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et dans Multizone, on va parler rapidement de cyclisme. La saison sur route est terminée, la saison de cyclo-cross a commencé. Hein. On était d'abord aux États-Unis pendant 3 étapes. Depuis la semaine dernière, on est en Belgique. Les deux grands artisans de la discipline que sont Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert ne sont pas encore sur les étapes de Coupe du Monde. Ils arriveront courant décembre pour préparer les mondiaux de janvier à Fayetteville aux États-Unis. Hier, donc en Belgique, la victoire est revenue à Elie Iserbeet, qui a déjà gagné 2 épreuves de Coupe du Monde aux États-Unis. Il s'impose devant Van Turenhout et Toon Arts. Donc des habitués de la Coupe du Monde. Allez, on passe au rugby avec des résultats, Charles.
Exactement, la journée de top 14 avec notamment en clôture le match du dimanche, c'était Racing contre le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain bien amoindri avec malheureusement ces 10 joueurs qui sont partis en sélection avec le 15 de France. Donc ça prend de la place évidemment, c'est pas comme au football, le championnat continue malgré les sélections, est-ce qu'on peut trouver ça un petit peu d'ailleurs scandaleux. Malheureusement du coup
les
ça
fameux l'a... doublons.
Exactement, donc ça l'a malheureusement désavantagé, le Racing s'impose 27-18 avec un essai de Palou, de Le Garec et un deuxième essai de Palou. Donc une bonne victoire pour le Racing qui remonte à la 3ème place avec 24 points. Bordeaux Blègle dans le même temps prenait la victoire donc à Clermont 25-9, donc le Bordeaux-Bègles qui prend donc la tête de ce top 14. Dans le même temps, Toulon aussi prenait une victoire importante face à Biarritz 13-9.
Il était temps hein, pour les Varois hein, qui ont dégagé Colasso hein, et c'est Franck Azéma qui prend les rênes de l'équipe cette
d'ailleurs,
semaine.
Colasso qui est parti et Azéma, l'ancien entraîneur mythique de Clermont qui prend la tête de Toulon qui va devoir un peu redresser la barre.
Et le prochain match, ça sera un certain Clermont-Toulon.
Et ça va être important ça. Celui-là.
Et surtout que le club de Clermont envisage de porter plainte contre Azéma pour rupture de contrat.
Oui c'est ça, bon encore des histoires un peu bizarres, on passe les temps là-dessus. Le sachant que le 15 de France jouera samedi face à l'Argentine au stade de France. Donc avec sans doute la paire Antoine Dupont, Mathieu Jalibert, Romain Tamac qui du coup sera placé sans doute en 3/4 centre, lui que beaucoup de gens et Fabien Galthié veulent du coup aller faire jouer Ntamack et Jalibert ensemble parce que ce sont des talents exceptionnels. Dupont est irremplaçable donc forcément on va faire rentrer les deux.
Un dernier petit mot de rugby pour faire plaisir à Fabrice. La victoire encore une du club de Vannes qui s'impose 20 à 13 face à Bourg-en-Bresse et qui continue sa remontée et ils joueront à Rouen vendredi.
Ouais, des points importants. On parce qu'ils sont ils étaient mal embarqués.
Ils étaient derniers au départ.
Oui, allez, pour conclure, un mot du PGA Tour. On jouait aux Bermudes et c'est la victoire pour l'Australien Luca Herbert qui s'impose d'un coup moins 15 devant Patrick Reed, l'Américain. Champ de joueurs très réduit hein, aux Bermudes. La semaine prochaine, il y a un World Championship, donc tous les ténors étaient au repos.
Ça marche. Bah, un petit mot de tennis. C'était le tournoi ATP de Vienne, un ATP 500. La victoire de Alexander Zverev sur Frances Tiafoe, l'Américain qui sortait des qualifications. Aujourd'hui, c'est le début du Rolex Paris Master. Donc, avait le fameux Master 1000, donc avec notamment Hugo Gaston, qui est le seul Français à être sorti des qualifications et qui joue actuellement contre Rinderknecht.
Un Français,
attention. Hein, c'est... Et qui est pour l'instant 1-7 partout, 4-6, 6-4. Les résultats, c'est aussi un petit peu la Manarino, le Français, qui s'impose face à Basilashvili, 6-2, 6-4. La surprise, c'est le Russe Aslan Karatsev, demi-finaliste de l'Open d'Australie en début de saison, qui se fait sortir par l'Américain, le jeune espoir Sébastien Korda.
Eh ben, on débriefera ça lundi prochain, tout comme les sports US, puisqu'on reviendra sur les World Series of Baseball qui ont lieu actuellement, et puis bien sûr sur la saison de NFL avec Xavier sans doute. Allez, il est 20h, on va rendre l'antenne. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Xavier, qu'on remercie pour toutes ces blagues durant l'émission.
Salut à tous.
Salut, merci.
Bonne soirée à tous.